Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Belinda Bossouma.
La rumba congolaise inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La nouvelle est tombée hier depuis Paris au siège de l'UNESCO. À ce sujet, nous recevons le professeur André Yoka, président de la commission mixte des deux Congos pour l'inscription de la rumba au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il explique entre autres les contours de ce processus. C'est aujourd'hui que se clôture la session parlementaire de septembre. Entre-temps, les deux chambres du Parlement travaillent d'arrache-pied pour finaliser le vote du budget. Tenez, après l'Assemblée nationale, le Sénat exige la suppression pure et simple de la taxe RAM. Et puis, mauvais état de la route au niveau du pont Kouilou, à l'entrée de la cité de Gungu. Situation consécutive aux plus abondantes actuelles, rapporte la société civile locale. Ceci rend impossible le passage des véhicules, voire des piétons. La société civile demande l'implication des autorités compétentes. Sachez tout d'abord que le directeur général intérimaire de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, Freddy Moulumba, a été suspendu hier soir par le ministère de la Communication et Médias. Dans un arrêté lu à la RTNC, Patrick Mouyaya évoque notamment le climat conflictuel avec les travailleurs. C'est le directeur Béli Dembunga qui assume désormais l'intérim. Madame, messieurs, bonjour. Ça y est, la rumba des deux rives du fleuve Congo est désormais patrimoine mondial, culturel, immatériel de l'humanité. La nouvelle est tombée hier. Le comité du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, présidé par le secrétaire général de la Commission nationale du Sri Lanka pour l'UNESCO, Punchi Nilame, a procédé à cette proclamation depuis Paris en France, au siège de l'UNESCO. Cette proclamation intervient 5 ans après l'inscription de la rumba cubaine sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est une nouvelle qui a réjoui les autorités congolaises, les experts et la représentation de l'UNESCO, comme le confirme ici Jean-Marc Matouaki dans ce reportage.
La ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Catherine Katungu-Fora, a exprimé toute sa reconnaissance à tous les acteurs, à tous les niveaux qui ont contribué à l'aboutissement de ces processus.
Nous disons merci à la diplomatie culturelle du président de la République démocratique du Congo. Merci au Premier ministre qui a donné à mon ministère la culture, art et patrimoine dans son 15e pilier de continuer avec les démarches de cette institution sur la liste de l'UNESCO. Une mention spéciale est attribué à tous les artistes musiciens de ces deux Congos, toutes générations confondues.
Pour sa part, le professeur André Yoka Liemoudaba, directeur général de l'Institut National des Arts et président de la commission mixte des deux Congos pour l'inscription de la rumba au patrimoine mondial de l'UNESCO, énumère quelques avantages en rapport avec cette inscription.
Il y aura plus d'attention sur la rumba en termes de professionnalisation. Nous avons l'INA, c'est son rôle. Nous y serons attentifs en termes d'industrie culturelle.
Le représentant pays de l'UNESCO en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Ilboudo, préconise entre autres comme action la création d'une école de la rumba.
Quand on reconnaît ça, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Il faut créer une école. Il faut que les générations qui viennent puissent apprendre la rumba.
L'actualité aujourd'hui, c'est aussi la clôture de la session parlementaire de septembre. Les deux chambres du Parlement travaillent d'arrache-pied pour finaliser le vote du budget. Après l'Assemblée nationale, le Sénat exige la suppression pure et simple de la taxe RAM pour permettre au gouvernement de légiférer pendant les vacances parlementaires. L'Assemblée nationale a adopté hier la loi d'habilitation afin de permettre au gouvernement d'autoriser la prorogation de l'état de siège. Michel Kifindangoy.
Dans l'exposé des motifs de cette loi d'habilitation, le gouvernement évoque sa volonté de continuer à répondre aux menaces sécuritaires persistantes en permettant aux forces de défense de poursuivre les opérations dissuasives et répressives en Ituri et au Nord Kivu. D'où la nécessité de l'habiliter à prendre des ordonnances-lois conformément à la Constitution, explique le président de la séance, Jean-Marc Kabound.
Il est important de préciser que l'assise juridique de cette matière se trouve être l'article 129 de la Constitution Je cite, « Le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance-loi des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. »
Quant à l'examen du budget au Sénat, la commission ECOFIN plaide pour la suppression pure et simple de la taxe RAM. Célestin Vounabandi.
Votre commission a réaffirmé avec force le caractère arbitraire et unique de la taxe RAM. Les recettes du RAM sont répartis en réseau 30% pour un certain opérateur privé dénommé 5C Énergie, RDC, dont les prestations restent énigmatiques.
La commission demande également la restitution aux usagers des fonds qui ont été indûment perçus par les RAM.
Parlons de l'Ituri. 4 jours après la fin de la mission du ministre de la Défense à Bunia, des réactions fusent de partout pour exprimer les attentes de la population. Dans leur déclaration hier, la coordination de la société civile de l'Ituri, le mouvement citoyen Jeune Leader, tous insistent sur la réorganisation de commandement militaire dans les opérations contre les groupes armés. Ces deux structures disent attendre du ministre Kabanda des résolutions concrètes dans un bref délai aux problèmes sécuritaires qui rongent cette province pour le retour d'une paix durable. Martial Kizabiamungu.
La situation sécuritaire de l'Ituri est dramatique et demande des solutions directes et pratiques, a déclaré Jean-Marie Ezadri, coordonnateur intérimaire de la société civile de l'Ituri. Pour lui, le passage du ministre de la Défense à Bunia, accompagné des parlementaires de l'Ituri, doit apporter des solutions sur les problèmes de l'inefficacité de certains commandants FRDC déployés dans les opérations contre les groupes armés.
Nous avons voulu que des réponses idoines soient apportées immédiatement par rapport à tous officiers qui ont certaines prérogatives sur les chats de bataille, doivent être échangé sans pour autant demander un long processus.
Abordant dans le même sens, les mouvements citoyens Jeunes Leaders indiquent que l'échevauchement au sein de l'armée est parmi les défis que les ministres de la Défense devraient s'y pencher et trouver la solution. Son coordonnateur, Christian Chaouri.
Nous, on avait déploré lorsqu'on faisait par exemple des remplacements des généraux, mais avec un résultat très critique, si les opérations se menaient avec tout objectif. Je pense qu'on n'allait pas remplacer par exemple le général Louyambik, on n'allait pas remplacer par exemple le général Tuviri Amoul qui avait récupéré la bastion de Ouago.
Notons que certains parlementaires de l'Ituri restent optimistes quant aux décisions qui seront prises par les autorités de Kinshasa dans les jours à venir. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Province du Maniema, ses conséquences immédiates des affrontements des deux factions des Maïmaï de Salamabila et ceux de Bouombo dans le territoire de Kabambare. 36 femmes victimes de violences sexuelles sont arrivées dans le territoire voisin de Kongolo dans la province du Tanganyika. Sur place, la prise en charge médicale des victimes pose problème. L'autorité territoriale appelle à l'appui médical. François-Xavier Mibé.
Ils ont ligoté mon mari, ils m'ont violée et la grossesse est supprimée. Voici l'une de 36 femmes victimes, dont celle du village Temunono, 54 km au nord-ouest du centre des Congolos, qui raconte comment les violences sexuelles qu'elle a subies l'ont jetée dans un désarroi qu'elle a du mal à oublier. Et pourtant, elle n'a pas été seule. 3 hommes ont violé ma fille et moi 2. Beaucoup appellent au retour de la paix. Le viol se déroule en présence du mari, battu, impuissant. Ils peuvent même être 5 à vous violer. Comme beaucoup d'autres encore, qui se tournent du côté de l'État congolais. Que l'État apporte la paix, qui va nous protéger. Toutes ces victimes, c'est la conséquence des affrontements survenus en début de décembre entre les deux factions du groupe Maïmaï de Salamabila d'un côté et ceux de Bouombo de l'autre, dans les territoires des Kabambare. Bilan, viol des femmes, incendie des maisons, mouvement des populations. L'administrateur de territoire assistant en charge de l'administration, Joseph Kiteba.
La sécurité est garantie. Les ONG. Que ces ONG s'occupent de ces femmes-là qui ont été violées.
Kalemi, François-Xavier Mibé, Radio Kapi.
À Goma, signalons le début hier des travaux d'experts du groupe de travail et de coordination sur les mesures non militaires mises en place dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba qui regroupe 5 pays signataires. Le groupe de travail et de coordination est composé des responsables des services de renseignement des pays membres, notamment le Burundi, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et la RDC. Objectif, préparer le déploiement d'une cellule opérationnelle qui sera basée à Goma. Plus de détails avec Sifa Maguro.
Cette cinquième réunion, qui va durer du 13 au 17 décembre, a pour but d'élaborer les termes de référence de la dite cellule opérationnelle. Celle-ci est composée de 12 experts venus des pays membres, plus les institutions garantes de l'accord cadre, notamment les Nations Unies, la CIRGEL, l'Union africaine et la SADC. La cellule opérationnelle devrait entamer les travaux de documentation et de mapping afin de démarrer ses activités sur terrain, indiquent les organisateurs. Notez que la mise en place de cette cellule rentre dans le cadre de la lutte contre les forces négatives, une approche qui prend également en compte la nécessité d'une action militaire complétée par des mesures non militaires en vue de faciliter la démobilisation et le rapatriement des membres de groupes armés étrangers. L'implication des leaders communautaires et de la société civile est également prise en compte dans ces efforts. Goma, Sifa Maguro, Radio Okapi.
Direction la province du Kwilu. Dégradation de la route au niveau du pont Kwilu à l'entrée de la cité de Gungu. Situation consécutive aux pluies abondantes actuelles, rapporte la société civile locale. Ceci rend impossible le passage des véhicules, voire des piétons, pour entrer ou sortir de Gungu, cette voie étant l'unique. Le président de la société civile locale sollicite l'implication du gouvernement provincial, de l'office des routes et de l'office de voirie et drainage pour la réhabilitation de cette route. Irène Boma.
D'après le président de la société civile de Gungu, il est actuellement très difficile d'accéder au chef-lieu de ce territoire à cause de l'état de dégradation très avancé des deux extrémités du pont Kwilu situé à l'entrée de cette cité. Joachim Kusamba décrit la situation.
Le pont Kwilu lui-même en tant que pont, il est en bon état, mais sauf que les descentes vers le pont et puis la montée des deux versants là sont dans un état de délabrement très avancé à cause des grandes pluies de ces jours. Cela empêche le passage des véhicules, voire même des piétons à dégradation très avancée. Nous avons qu'une seule sortie et une seule entrée. Donc le pont là de Kwilu reste le passage obligé pour toute personne qui voulait entrer dans le territoire de Gungu en passant par Kaemba.
Il en appelle à l'intervention du gouvernement provincial du Kwilu afin que la situation soit décantée.
Notre plaidoyer, ça va vers le gouvernement provincial. Nous demandons au gouvernement provincial et à l'office de route ainsi qu'au l'OVD de venir travailler.
Notez que ces ponts situés sur cette route d'intérêt provincial facilitent l'approvisionnement de Gungu en produits manufacturés via Kikwit et l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation, a déclaré Joachim Kusamba. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis, produisons et consommons local. C'est le thème de la foire des entrepreneurs locaux lancée à Bukavu le week-end dernier. C'est une première pour la province du Sud Kivu. Elle est organisée en deux blocs. Le bloc étatique représenté par l'OPEC et le bloc des plateformes des entreprises du Sud Kivu. Le but est de montrer à la face du monde qu'au Sud Kivu, il y a des entrepreneurs qui produisent et qui sont capables de trouver des solutions aux différents besoins de la population, une opportunité pour vendre l'image de la province. Benjamin Bahati, coordonnateur de la foire des entrepreneurs locales, demande à la population de consommer les produits locaux, seule manière de soutenir l'entrepreneuriat et accroître notre économie. Il l'a dit au micro de Rachel Kiesembangu.
Les entrepreneurs locaux du Sud Kivu se plaignent de voir leurs produits ne sont pas connus même au niveau local et il y a une forte importation qui vient rendre la concurrence très déloyale. Donc on a pensé qu'il fallait organiser une très grande messe où on va pouvoir exposer, commercialiser et surtout mener différents plaidoyers pour faciliter le travail aux entrepreneurs locaux. C'est pourquoi sous le thème produisons et consommons local, on est en train de faire beaucoup d'activités. Les mobiles du côté des entrepreneurs, de renforcer leur confiance, d'aider qu'ils produisent, ils continuent sur cet élan-là. Mais de l'autre côté, mobiliser toute la population pour consommer déjà les produits entrepreneurs locaux. Quand on regarde d'ailleurs, tout ce qui aide différents pays à se relever, c'est la production locale. Malheureusement, chez nous, c'est négligé. Et dans l'entretemps, il y a beaucoup de problèmes de chômage des jeunes. Il n'y a que l'État congolais pour donner beaucoup d'emplois, mais encore qu'il ne peut pas donner l'emploi à tout le monde. Donc, le secteur de l'entrepreneuriat, c'est un secteur clé de la vie nationale qui va aider à relever autant de défis.
Signalant que la foire des entrepreneurs locaux du Sud Kivu se déroule en deux étapes, à savoir l'exposition des produits locaux au cercle sportif de la Botte, ainsi que des conférences, débats et tables rondes avec des coachs nationaux et internationaux dans la salle Concordia. Au Kasaï central, les inspecteurs, cadres et agents du ministère de la formation professionnelle réclament leur salaire. Ils disent travailler sans rémunération ni frais de fonctionnement plus de 5 ans depuis la création de ce ministère. Après avoir organisé une marche mardi à Kananga, ils ont remis un mémorandum aux différentes autorités, dont le président de l'Assemblée provinciale. Après avoir reçu leur mémorandum, le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central s'est engagé à le transférer à qui de droit.
Actualité internationale.
Une session d'urgence du Conseil des droits de l'homme de l'ONU est convoquée pour vendredi 17 décembre à Genève afin d'évoquer les crimes commis par les belligérants en Éthiopie, selon un communiqué des Nations Unies publié hier. Une telle session a été demandée depuis des semaines par de nombreuses ONG internationales et africaines et se tiendra à l'initiative de l'Union européenne qui a obtenu le soutien de 17 pays membres et de 36 pays observateurs, dont plusieurs non-européens. L'Éthiopie a aussitôt condamné ce qu'elle considère comme une tentative injuste et contre-productive d'exercer une pression politique. Le président français va rencontrer le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne. C'est la première fois que les deux chefs d'État se parleront face à face après plusieurs échanges téléphoniques. La rencontre est prévue le lundi 20 décembre à Bamako, selon des informations confirmées auprès de l'Élysée. Entre-temps, la force française Barkhane a quitté officiellement la base de Tombouctou après Kidal et Tessali dans le cadre de la réorganisation en cours du dispositif militaire français au Sahel. Sur place, ce départ et ses neuf années laisse une impression quelque peu amère, disent des sources sur place.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le professeur André Yoka, directeur général de l'Institut national des arts et président de la commission mixte des deux Congos pour l'inscription de la rumba au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il explique ici les contours de ce processus, parle de quelques avantages en rapport avec cette inscription et formule quelques recommandations dans cet entretien avec Jean-Marc Matouaki Mofelele.
Professeur André Yoka, bonjour.
Bonjour.
La rumba congolaise vient d'être proclamée officiellement patrimoine culturel immatériel de l'humanité après avoir été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement en termes plus clairs et simples?
Mon terme plus clair et simple, c'est qu'il y a eu un processus. C'est que parmi les éléments d'exception dont nous disposons dans ce grand pays, nous avons choisi la rumba. Parce que la rumba est peut-être l'élément d'exception qui est fédérateur, qui nous donne la joie de vivre, qui exprime notre passion de vie et de résistance à la vie. Et donc nous l'avons soumise, la rumba, à l'UNESCO. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'il y a une première étape. C'est le secrétariat technique qui doit pouvoir valider le caractère technique de la requête. Cette étape-là a été franchie dès les premiers mois. Mais on ne dit pas assez qu'après ça, le secrétaire technique envoie le dossier à un organe d'évaluation indépendant. Il y a une soumission qui est ouverte, un appel d'offres pour les organes, les centres de recherche, les ONG qui sont capables de pouvoir donner une évaluation de la candidature. Ça a été fait. Et donc, depuis quelque temps, nous avons des échos à gauche et à droite qui nous laissent à donner que oui, l'élément est en bonne voie. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour pour certains efforts de longues années. Et j'ai une pensée reconnaissante pour mes collègues, les experts, les universitaires qui ont travaillé, les journalistes comme vous, qui nous avaient soutenus depuis le début.
Les artistes,
les professionnels de la culture, aussi bien à Kinshasa qu'à Brazzaville. Je crois que c'est aussi le pont sur le Congo que nous voulons d'inaugurer. Un pont fait avec les fibres du cœur, avec l'imagination. Et mais tout commence maintenant. C'est maintenant que les politiques devraient être plus cohérentes. Nous, les experts, nous avons fait notre bout de chemin. Maintenant, c'est aux politiques, aux diplomates de pouvoir parachever ce qui a été germé.
Quels sont les avantages que les deux Congos tirent de cette inscription de la rumba comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, de l'UNESCO?
D'abord, c'est un seul Congo. Le Congo de Lumumba, le Congo de Kabasele, le Congo de Franklin Bukaka, le Congo de Chikaya Utamsi. C'est ce grand Congo-là qui a parlé et qui a exprimé une image alternative de prestige et de compétence. Deuxièmement, ce que nous tirons, c'est qu'il y aura plus d'attention sur la rumba en termes de professionnalisation. Nous avons l'INA, c'est son rôle. Nous y serons attentifs. en termes d'industrie culturelle. Nous espérons que les entrepreneurs culturels qui nous écoutent feront plus attention pour que l'alliance privée-publique puisse donner de la valeur ajoutée à la rumba congolaise. La valeur ajoutée à la rumba congolaise, c'est l'économie de la culture. La valeur ajoutée, c'est le soft power, c'est-à-dire une diplomatie performante, agissante en termes de géopolitique, de géostratégie, mais aussi une solidarité plus active entre nous les Africains, mais aussi avec la diaspora qui, depuis des années, s'active beaucoup à la promotion de la rumba congolaise.
Comment peut-on, au niveau de Deux Congo, capitaliser cette inscription de la rumba sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité?
Vous savez, pendant que nous préparions la candidature, nous avons fait des réunions pour des projets prospectifs, pour que nous puissions réfléchir dès à présent sur la pré-inscription. Et un document de stratégie qui a été fait, étalé sur 4 ans, à court, à moyen, à long terme, pour pouvoir, dans plusieurs axes stratégiques, donner une impulsion nouvelle, professionnelle, politique, à la valeur ajoutée de cette inscription de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité sous l'égide de l'UNESCO. Il nous appartient maintenant de pouvoir mériter ce label. Il nous appartient. Et je crois que ce sera peut-être d'autant plus facile que c'est un label qui pourrait interpeller positivement tous ceux qui aiment la musique et la musique congolaise moderne.
Professeur André Oka, merci.
Le DG de l'INA et président de la commission mixte des Deux Congos pour l'inscription de la rumba au patrimoine mondial de l'UNESCO s'entretenait avec Jean-Marc Matoki Mofelele. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rumushinj, Alain Goya la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.